Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. On peut remercier le Seigneur pour ce temps pas trop chaud, pas trop frais, juste ce qu'il faut. Voilà. Eh bien, nous avons déjà lu dans les psaumes combien Dieu fait de grandes choses. C'est lui qui fait les grandes choses. Nous ne sommes pas Dieu, mais il peut faire des grandes choses même au travers des hommes faibles, Joseph, Moïse et d'autres. Et ce matin, nous allons voir justement comment Dieu fait de grandes choses dans la vie de Moïse. Et je vous invite à prendre l'Exode, le livre Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Et ce matin, nous voulons voir quelques leçons qu'on peut tirer de l'échec. Donc Exode chapitre 2. À partir du verset 1, et le titre, c'est « Les leçons de l'échec ». Alors, Exode chapitre 2, verset 1. « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une femme de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, » lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et il dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Réuel, leur père, et dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Guershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Voilà, nous connaissons tous l'histoire de Moïse, il y a des comédies musicales qui ont été faites sur ce passage de la Bible, mais ce matin, nous voulons que Moïse nous apprenne à tirer des leçons des échecs. Nous ne sommes pas parfaits, nous le savons bien, et le souvenir de nos échecs est souvent éprouvant, décourageant, et risque de constituer un frein à notre croissance spirituelle si nous ne saisissons pas que faire des erreurs fait aussi partie de tout apprentissage, à l'école, dans la vie. Faire des erreurs fait partie de tout apprentissage, même celui de la sainteté, même au niveau de la croissance spirituelle, faire des erreurs sert. Nous gardons une image assez édulcorée de la vie chrétienne. La vie chrétienne devrait être, selon nous, une suite continue de bonnes actions. On devrait, si on marche par l'esprit, réussir en tout temps. Avec une telle conception de la vie chrétienne, seuls nos succès auraient une vraie valeur éducative et sanctifiante. Et quand nous avons cette vision de la vie chrétienne, on a tendance à passer sous silence nos erreurs, nos échecs. N'y a-t-il rien à apprendre de nos manquements ? N'y a-t-il aucun progrès possible dans la sainteté par l'intermédiaire de nos échecs ? L'histoire de Moïse, de beaucoup de saints, nous apprend qu'on peut progresser par les échecs. On peut apprendre de nos échecs. Nous savons bien que nous sommes imparfaits et Dieu le sait aussi. C'est pourquoi nous sommes en Christ. Et nous devons toujours nous rappeler que c'est en Christ que nous sommes parfaits. Mais de nous-mêmes, nous voyons bien qu'il y a des imperfections. Mais nous devons nous rappeler, nous considérer toujours en Christ, c'est ainsi que Dieu nous voit, et prendre courage. Alors, au lieu de soupirer après une vie chrétienne sans faille, apprenons plutôt à tirer des enseignements de nos échecs, de nos manquements, pour ne pas les reproduire autant que possible, et surtout pour progresser au travers eux. Eh bien, je vous invite à prendre le psaume 119, et on va considérer trois versets du psaume 119, et nous reviendrons à notre passage. Pour l'instant, on considère trois versets du psaume 119, le verset 67, psaume 119, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Et nous allons ensuite au verset 71 et 72, un peu plus bas. « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Avez-vous rencontré déjà quelqu'un dans cette vie, un homme fier de ses succès et qui est humble à la fois ? Si vous l'avez rencontré, dites-moi. Mais c'est rare de telles personnes qui sont fiers de leur succès et qui sont humbles à la fois. Ce sont plutôt des hommes imbus d'eux-mêmes et critiques vis-à-vis des autres, tellement ils réussissent bien tout parfaitement. Le psalmiste, dans le psaume 119, nous dit deux choses à propos de l'échec. Il nous dit tout d'abord que passer par l'échec produit une vie obéissante, c'est le verset 67. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Lorsque on a agi selon la chair et qu'on récolte ses fruits, lorsqu'on connaît l'échec, eh bien on aspire à être purifié. On désire marcher plus près de Dieu parce qu'on s'en est éloigné. Et la deuxième chose que ce psaume nous dit, c'est que passer par l'échec nous rend malléables. Et c'est le verset 71 qui nous dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne. On est malléable. Les personnes contrites, humiliées, sont particulièrement sensibles à la voix du Saint-Esprit. Il ne faut pas nous rendre humbles, nous rendre malléables. On se laisse plus facilement instruire. Et il porte un grand coup à notre orgueil. Et alors, quand nous avons chuté, quand nous avons connu l'échec, il y a une tristesse selon Dieu et un désir de marcher dans l'obéissance à Dieu. Alors, revenons à Moïse pour tirer des leçons de l'échec. Et donc, Moïse était au haut de la pyramide. Il a été instruit, Actes chapitre 7, nous dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. C'était presque un premier ministre. Et on voit que Moïse passe du rang de premier ministre à celui de fugitif à cause du meurtre qu'il avait commis. Exode 2,15, nous lisons « Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. » Il était en haut de la pyramide et maintenant il se retrouve près d'un puits. Voilà. Et sa vie de serviteur de Dieu semblait pour lui être à jamais terminée. Il s'était arrêté là, près d'un puits. Il devait avoir l'impression d'être au bout du rouleau, complètement grillé, pensant que, eh bien, servir Dieu maintenant, c'est terminé pour moi, après ce que j'ai fait. Quelles pensées, quelles idées ont dû traverser l'esprit de Moïse alors qu'il était seul dans le désert et scrutant le fond du puits, se disant, oula, regardez jusqu'où je suis tombé bien bas. Eh bien, quelles idées ont pu traverser son esprit? C'est ce que je voudrais voir avec vous, et je vais énumérer 4 possibles. Et la première idée pourrait être la suivante. La première idée, les objectifs spirituels ne s'accomplissent pas par des moyens charnels. Les objectifs spirituels ne s'accomplissent pas par des moyens charnels. Nous lisons au verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappa un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alors, le verset 11 nous dit qu'il vit un Égyptien qui frappa un Hébreu d'entre ses frères. Mais après, il n'est pas écrit, et Dieu dit à Moïse, règle ce problème entre l'Égyptien et l'Hébreu. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit? Moïse, de son propre chef, va agir. Il va regarder à droite, à gauche, pour voir si personne ne regarde, et il va tuer l'Égyptien. Moïse voulait faire quelque chose pour Dieu. Il voulait délivrer, il voulait rendre justice. Il était mu par le désir de bien faire. Mais le problème, c'est qu'il s'est consacré à la volonté du Seigneur, mais pas au Seigneur lui-même. Nous pouvons tellement être consacrés à la volonté de Dieu, tellement motivés par le désir d'agir pour Dieu, que nous prenons les choses en main et nous tenons le Seigneur à l'écart. Moïse a pris les choses en main et il est devenu un meurtrier. Pensez-vous que Dieu était derrière ça? Pas du tout. Cet Égyptien, effectivement, avait tort quand il battait l'Hébreu. Il méritait d'être puni parce qu'il était méchant. Mais Moïse a fait justice lui-même, conduit par la chair et non par l'esprit. Il est devenu comme un Égyptien qui est un maître qui punit un esclave. Il a utilisé de violence, il a tué un homme. Dieu, quant à lui, désire que nous cherchions d'abord quelle est sa volonté. Nous devons nous humilier chaque jour devant lui pour savoir ce qu'il veut, chercher sa face, discerner son heure et agir sous la direction du Saint-Esprit. Si nous agissons sans discerner son heure et ses moyens, nous courons à la catastrophe comme Moïse. Moïse a regardé, il nous a-t-il dit, à droite, il a regardé à gauche, il sentait bien que ce qu'il allait faire n'était pas une bonne chose. Il regardait si quelqu'un, il y aurait des témoins, à droite, à gauche, mais regardez, il n'a jamais regardé en haut. Il n'a jamais cherché, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'a pas consulté Dieu et il s'est retrouvé avec un cadavre sur les bras. Lorsqu'on agit selon la chair, sans consulter Dieu, lorsqu'on veut prendre les choses en main, sans chercher à savoir la volonté de Dieu, eh bien, il nous arrive d'avoir des fois un cadavre sous les bras. Lorsqu'on agit selon la chair, on a toujours quelque chose à cacher. Et Moïse a caché le cadavre. On a toujours quelque chose à cacher quand on agit selon la chair. On doit tenir secrète nos motivations. Qu'est-ce qui nous a vraiment poussé à faire ça? Eh bien, ça, on le cache. On ne veut pas que ça se sache. On doit dissimuler telle ou telle fréquentation qui nous permettra de faire ce qu'on veut faire, parce que ce n'est pas très louable. On doit maquiller une demi-vérité. On doit rectifier certaines choses. Bref, enterrer un cadavre comme Moïse a fait. Enterrer le cadavre qu'a produit les moyens charnels que nous avons utilisés. Mais vous savez, le sable finit par dévoiler ses secrets, un jour ou l'autre. Et Moïse n'est pas arrivé à masquer complètement son forfait, puisque ça s'est su. Les gens l'ont su, et Pharaon aussi l'a su. Peut-être qu'il n'avait pas bien recouvert le cadavre. Et donc, Moïse doit fuir. Il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Alors, le Seigneur, plus tard, va appeler Moïse, on va le lire plus tard. Et il va appeler Moïse, et cette fois-ci, c'est le Seigneur qui va diriger les choses. Il va prendre les choses en main, c'est le Seigneur qui va prendre les choses en main, et Moïse va agir selon le plan de Dieu, et non pas selon ce qu'il pense être bon ou mauvais. Et on va voir que cette fois-ci, l'Égypte, l'armée d'Égypte va être complètement ensevelie, selon le plan de Dieu, complètement recouverte par les flots. Lorsque Dieu intervient, il ne fait pas les choses à moitié. Moïse l'a tué un Égyptien, mais ça s'est su, le cadavre est sorti. Quand Dieu va prendre les choses en main, il va faire les choses bien, il va faire une délivrance complète. En Égypte, Moïse avait fait justice lui-même, conduit par la chair et non par l'esprit. On peut semer une graine charnelle et recueillir, on ne peut pas recueillir un fruit spirituel quand on sème une graine charnelle. Il nous arrive de remercier le Seigneur pour ceci, pour cela, merci Seigneur, mais il pourrait bien nous dire des fois, ça, je n'y suis pour rien, ça c'est ton œuvre, ce n'est pas la mienne. Donc voici la première pensée qui pourrait traverser l'esprit de Moïse, les objectifs spirituels ne s'accomplissent pas par des moyens charnels. Moïse a voulu faire la volonté de Dieu en tuant un Égyptien sans consulter l'Éternel. La deuxième pensée qui a pu traverser l'esprit de Moïse est la suivante, le moment opportun est aussi important que l'actuel même. Dieu a un temps pour toute chose. Il n'est ni pressé ni en retard. Le moment de Dieu est ce moment important, si important que l'action. Dieu a non seulement pourvu de bonnes œuvres d'avance pour nous, mais il a aussi prévu le moment où nous devons les accomplir. On lit dans Galates chapitre 4, verset 4, ne lisez, ne cherchez pas, je lis. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pas avant, pas après. Jésus-Christ est arrivé au bon moment, au moment où Dieu l'a décidé. Et quand le peuple juif se trouvait dans une situation très compliquée à l'époque d'Esther, c'est Mardoché qui dit à Esther au chapitre 4, verset 14, « Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther était la femme du roi, et elle pouvait faire quelque chose, il fallait qu'elle se rende vers le roi pour demander grâce pour son peuple. Et elle était hésitante. Et Mardoché, son oncle, lui a dit, eh bien, tu es arrivé là, maintenant, tu es l'épouse du roi, c'est peut-être pour cette situation-là, c'est ce temps-là que Dieu avait pour toi. Eh bien, vous voyez, les choses de Dieu se passent en un temps précis. Et il met les pions, enfin les acteurs, à ce moment-là précis, pas avant, pas après. Quand Moïse a réfléchi à tout ce qui s'était passé, quand il est là en train de regarder le fond du puits, se dire « Oh là là, je suis tombé bien bas », il a dû se dire « trop tôt, j'ai agi trop tôt ». Nous avons des fois de bonnes idées, des projets spirituels, c'est une bonne chose. Mais des fois, nous nous précipitons comme Moïse. Nous ne remettons pas nos intentions devant Dieu. Nous avons oublié que le choix du moment est aussi important que l'action. Le moment opportun est aussi important que l'action elle-même. La connaissance me dit qu'est-ce que je dois faire. La connaissance, la sagesse me dit à quel moment je dois le faire. À quel moment je dois passer à l'action. Les projets, quand ils viennent de Dieu, se réalisent au temps de Dieu, pas avant, pas après. Nous trouvons quelques exemples de cela dans la parole de Dieu. Alors, Genèse chapitre 16, on peut, si vous voulez suivre un peu, Genèse chapitre 16, je vous donne les références. Gardez un doigt dans Exode. Genèse chapitre 16, verset 1 et suivant. Là, nous avons l'histoire d'Abraham et de Sarah. L'Éternel avait dit à Abraham qu'il aurait eu un fils qui serait sorti de ses entrailles. Et ça tardait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Abraham et Sarah? Eh bien, ils ont pris la chose en main, comme Moïse. Et nous disons, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, viens vers la servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Et vous savez que là, après ça, Ismaël est venu. Mais qu'est-ce qu'il fait, Ismaël? Eh bien, Ismaël va se moquer plus tard de l'enfant de la promesse. Il va se moquer d'Isaac. Trop tôt, ils ont pris les choses en main. Ils ont fait à leur goût. On voit aussi, quand David était poursuivi par Saül, les hommes qui l'accompagnaient vont lui dire de prendre les choses en main. Ils vont le pousser à prendre les choses en main avant l'heure de Dieu. Et ça, c'est 1 Samuel, tournez votre page, hein. 1 Samuel, chapitre 24, chapitre 5, pour voir comment les hommes, voulant faire bien, mais ne consultant pas Dieu, veulent vous pousser à prendre les choses en main avant le temps de Dieu. 1 Samuel, chapitre 24, verset 5. Alors, on peut commencer au verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Et le verset 5 nous intéresse. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je te livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Et on voit au verset 11, « Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. » Donc, les gens de David le poussaient à tuer Saül, et ça aurait été fini. David aurait mis fin à cette partie de cache-cache avec Saül, et il aurait été tranquille. Mais est-ce que ça aurait été le plan de Dieu? Est-ce que ça aurait plu à Dieu? Et regardez Josué au chapitre 6 de Josué. On avait demandé, Josué chapitre 6, verset 1, on fait un petit peu de lecture. Eh bien, pour conquérir Jéricho, il avait été demandé à Josué de faire 6 fois, n'est-ce pas, 6 fois le tour de la ville, et le 7e jour d'en faire 7 fois, et de sonner après la trompette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Josué a fait ce que Dieu lui a demandé. Mais qu'est-ce qui serait-il passé si Josué avait dit, ah tiens, 6 fois, c'est un peu... Non, c'est trop. 3 fois suffit. Après tout, on est en train de tourner en rond. C'est pas militaire, ça. Dieu avait dit 6 fois. Il fallait faire 6 fois, et le 7e jour, 7 fois. Eh bien, s'ils avaient fait 6 fois, est-ce que la muraille serait tombée? Est-ce que la muraille serait tombée? Ce n'est pas le Seigneur qui est trop lent. C'est nous qui sommes trop pressés. Trop pressés. Moïse était trop fort, il était trop instruit, trop doué, trop avantagé, trop pressé. Et quand on lit dans Actes, prenez avec moi Actes chapitre 7, qui parle bien de Moïse, Actes chapitre 7. Donc il relate un peu la vie de Moïse. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert et 40 ans à servir Dieu. Alors, Moïse, chapitre 7, verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Nous sommes dans Exode, là. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il fut exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Voilà, Moïse est instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Les Égyptiens avaient atteint un niveau de connaissance extraordinaire, c'était une civilisation très avancée. Et Moïse est instruit dans tout cela. Et il dit, wow, avec tout ce que je sais, je suis bon, je suis prêt pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis équipé, quand même. Voilà, qui pourrait le faire à part moi? Les autres sont esclaves. Je suis 2e après Pharaon. Et donc, rempli de toute la sagesse, Et il pensait que les gens allaient comprendre. Voilà. Eh bien, trop instruit, trop doué, mais... Voilà, trop pressé aussi. Dieu n'agit pas Dieu n'a pas besoin de nos talents pour agir. Il veut plutôt que nous, que ce soit lui qui fasse l'œuvre au travers de nous, mais pas nous qui nous mettions en avant avec tous nos talents et disant, ah ben moi je vais servir Dieu. Sinon ça nous centre sur nous et pas sur Dieu. Voilà. Eh bien, voilà, au bord du puits, cette deuxième leçon, cette deuxième pensée, le moment opportun est aussi important que l'action elle-même. Il faut attendre le temps de Dieu pour que les choses se fassent bien selon Dieu. Il y a une troisième chose que Moïse a dû se dire alors qu'il était en train de regarder le fond du puits. Et la troisième leçon, c'était « Cacher le mal, ne l'efface pas. Tôt ou tard, on va le découvrir. Dans cette vie ou plus tard. » L'homme a une tendance naturelle à dissimuler ce qui n'est pas bien. Regardez dans le jardin d'Éden, les hommes se sont cachés lorsqu'ils ont péché. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9, nous lisons « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et là, devant le puits, Moïse a dit « Cachez la chose, cachez les mauvaises choses, ça ne sert à rien parce qu'un jour ça va se savoir. Eh bien, maintenant, je vais confesser mes erreurs. Je vais dire, je ne vais rien cacher à Dieu. » C'était la troisième leçon. Et enfin, la dernière pensée qui aurait pu passer par son esprit devant ce puits, seul dans le désert, en train de réfléchir à ses actes et ses conséquences. Moïse a dû se dire, eh bien, finalement, ce n'est pas nous qui décidons qu'est-ce que nous faisons pour Dieu. C'est Dieu qui nous dit, voilà, moi je veux que tu me serves là. Et c'est peut-être même pas ce que nous voulions faire. Peut-être même pas ce que nous voulions faire. Quand on regarde les disciples, c'est pas eux qui ont choisi d'être disciples. Dieu les a choisis. Voilà. Quand on regarde, ils n'étaient pas compétents. Ils n'avaient pas les compétences. Mais c'est comme ça que Dieu se glorifie. Il va utiliser, bien sûr, les talents naturels que nous avons. Mais il veut avant tout que ce soit lui qui nous dirige et qui nous donne la tâche. Ce n'est pas nous qui choisissons. Ah, j'aime bien faire ça, je vais faire ça. Non, non. Dieu sait ce qu'il a préparé pour nous. C'est Dieu qui nomme ses conducteurs spirituels. Ce n'est pas un choix personnel. Dans notre société, le recrutement se fait sur le CV. Vous amenez un papier, vous dites tout ce que vous avez fait dans la vie, vos études, vos diplômes et tout cela. Et par le CV, nous montrons de quoi nous sommes capables. Nous avons les capacités pour faire ça, pour faire ça. Nous avons travaillé dur pour arriver à ce niveau. Nous avons travaillé dur pour nous former. Donc nous méritons le poste. Moïse avait confiance dans ses capacités, et c'est naturel. Il était instruit dans toute la science des Égyptiens, il connaissait plus que tout le monde. Il se trouvait au sommet de la pyramide. Il pensait que ses frères allaient comprendre ses intentions, et il a foncé sans hésiter. Et on a vu les conséquences, quand on veut faire seulement avec nos talents, nos compétences. Mais la vie spirituelle ne s'épanouit pas avec des capacités naturelles, mais avec des capacités surnaturelles, celles qui viennent du Saint-Esprit, des capacités spirituelles. Et qui distribue les capacités spirituelles? Le Saint-Esprit, comme il veut. Ce n'est pas nous qui disons, moi je veux ci, moi je veux ça. Ah, moi, non, non. Il sait. Pour que nous ne soyons pas orgueilleux. Pour que ce soit bien Dieu qui agit au travers de nous. Pour que nous ne soyons pas au centre. Que nous ne soyons pas au devant de la scène. C'est le Saint-Esprit qui prend l'initiative d'appeler les gens à un poste. Et c'est lui aussi qui les qualifie. On peut prendre 1 Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 12. On ne va pas tout lire. Mais on peut commencer au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez, il y a l'esprit, il y a le Seigneur, il y a le Dieu. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Ce n'est pas nous qui choisissons, vous avez vu, hein? C'est lui qui distribue, comme il veut. Et vous voyez, c'était le cas, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que c'est le cas de David et des prophètes. David n'a pas demandé à être roi, c'est Dieu qui l'a choisi. Et on peut regarder rapidement 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, pour voir l'histoire de David. Donc quand Saül a péché, qu'il a été rejeté, Dieu avait son homme dans son cœur. 1 Samuel chapitre 16. Et donc, il envoie Samuel chez le père de David, trouver le roi. Et donc, il va chez le père de David, et au verset 6, on commence au verset 6, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, Eliab était un des fils d'Isaïe, un frère de David, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Il a vu Eliab, ça devait être un homme costaud. Voilà, ça allait être un roi. Oui, ah, c'est lui, il y a certainement, vous voyez, il est certainement. Donc il y avait quand même des éléments visibles qui montraient que lui aurait été roi. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à l'apparence, à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lui seul peut connaître le cœur. Nous ne pouvons que voir l'extérieur. Dieu seul voit le cœur, et c'est lui seul donc qui sait. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant l'Éternel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Vous voyez, trois fois, il dit, l'Éternel n'a choisi. Ce n'est pas eux qui se sont choisis. C'est l'Éternel qui les a choisis. Et puis, il y a le petit dernier qu'on a oublié, David. Et il dit, bon, vous connaissez l'histoire, mais on va la lire rapidement. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis, lui. Pas lui, hein. Non, pas lui. Ce n'est pas possible. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoie chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà. On peut voir ça aussi dans Actes pour Paul. Hein, donc, dans l'Éternel qui choisit les hommes, dans Actes chapitre 9, aussi, comment Dieu appelle. Donc on lit quelques extraits, mais on va souligner les versets. Actes chapitre 9, on peut prendre au verset 6. Alors, donc on connaissait Saül qui est sur le chemin de Damas, qui a des lettres pour persécuter les chrétiens, et sur cette route de Damas, le Seigneur l'aveugle, il tombe, et on commence au verset 6, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Et verset 6, tremblant et saisi des fois, elle dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Paul n'a pas dit, « Eh bien, je vais faire ça, Seigneur, pour toi. » Il demande au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse ?» Et au verset 15, on poursuit, verset 15, parce que, mais le Seigneur lui dit, donc c'est Ananias, un disciple qui était en train de prier, et à qui le Seigneur va demander d'aller voir Saül, mais Ananias a peur, et le Seigneur dit non. Donc il lui répond, Ananias, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand on considère les œuvres de Paul, pardon. Est-ce qu'un homme avec ses capacités seules aurait pu faire ça? Impossible. Quand on considère la délivrance du peuple d'Israël, est-ce que Moïse, avec ses capacités naturelles, aurait pu faire ça? Mais non. C'était impossible. C'était au-dessus de nos forces. C'était au-dessus de ses forces. Au-dessus des forces de tous ses disciples. Il fallait que ce soit Dieu qui agisse. Il fallait que ce soit Dieu qui choisisse, et il savait pourquoi. Il fallait qu'il soit honoré. Donc on voit aussi ça chez les apôtres. Donc Barnabas, Paul, Actes chapitre 13, on tourne. Actes chapitre 13, verset 2. On commence au verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Naamen, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mettez-moi à part, ce n'est pas Barnabas et Saul qui ont choisi. Le Saint-Esprit a parlé, parce que c'est une œuvre spirituelle qui va être à la gloire de Dieu, qui va porter des fruits spirituels. Il faut que ce soit Dieu qui agisse. Pour les autres apôtres, ça s'est vu aussi dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et donc on aura fait un petit tour, mais on pourrait prendre encore une multitude de références. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 19, pour voir que c'est Dieu qui appelle les hommes, et ce n'est pas les hommes qui choisissent. Et c'est lui qui les qualifie aussi, puisque c'est l'Esprit qui distribue les dons, ce n'est pas nous qui choisissons. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 18, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ces hommes étaient des marins pêcheurs. Ils n'étaient pas qualifiés pour faire cette grande œuvre-là. Mais Dieu a dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est moi qui vous ferai pêcheur d'hommes. Avait-il imaginé qu'ils auraient, leur vie aurait été comme ça? Pas du tout. Ont-ils choisi? Non. Le Seigneur les a choisis. Et les a envoyés, les a qualifiés. C'est Dieu qui choisit ces choses. Voyez Moïse, d'ailleurs, 40 ans plus tard. Donc on revient à Moïse. On va voir. On a encore un peu de temps. Près du buisson, dans Exode chapitre 3. Donc, vous connaissez l'histoire du buisson. Et au verset 11, on va juste lire quelques extraits. Moïse dit à Dieu, c'est Dieu qui lui dit. Donc, on commence au verset 9. Exode chapitre 3, verset 9. Dieu parle à Moïse. « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, « va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Ce n'est pas Moïse qui a choisi le temps. Ce n'est pas lui qui s'est choisi. C'est Dieu qui l'a choisi, qui l'envoie. Maintenant, pas avant, c'est maintenant. Au verset 11, qu'est-ce qu'il dit Moïse? Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Là, Moïse n'a plus... L'aisance qu'il avait avant, il était au haut de la pyramide, mais il comprendrait. Maintenant, il est plutôt hésitant. Vous voyez? Et on voit, quand on tourne chapitre 4, verset 1, on tourne Exode chapitre 4, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Moïse n'a plus la même assurance qu'il avait avant. On voit au verset 10 aussi, Exode 4, 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Voilà. Il a des difficultés à parler. Voilà. On voit plus loin, hein, au verset 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Verset 14, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et elle dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ?» Et Voilà, donc regardez d'ailleurs au verset 11, je reprends le verset 10, Moïse dit à l'Éternel, Ah Seigneur, ne suis-je pas un homme? Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Bon, il n'avait pas non plus à planifier un discours, voilà, réfléchi, mûri, là, dans son bureau, bien écrit. Non, je vais te dire ce que c'est moi qui m'écris. Voilà. Et Moïse dit, donc Moïse va dire, mais je manque d'autorité, ils vont pas me croire, je manque d'éloquence, je manque d'aptitude. Dieu dit, c'est pas un problème, c'est moi qui vais agir au travers de toi. Et donc plusieurs fois, Dieu dit, mais c'est toi. Moïse, non, 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 c'est pas moi. Dieu dit, non, non, c'est toi. Mais Moïse dit, mais je ne sais pas parler. Voilà. Le seul langage que je dis, c'est les brebis. Hein. Voilà. Je suis resté 40 avec les brebis. Bon, le langage des brebis, je connais, mais sinon, le reste. Le Seigneur dit, mais je serai avec ta bouche. Et Moïse va plusieurs fois évoquer plein de problèmes et finalement, il va céder. Vous voyez que ce n'est pas Moïse qui a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi, qui l'a équipé. Et vu l'immensité de la tâche, jamais il n'aurait fait ça avec une quelconque compétence humaine. Il lui fallait vraiment, il fallait que ce soit Dieu qui agisse au travers lui et que c'était l'œuvre de Dieu. Eh bien, parce que Dieu l'a choisi, le travail de Moïse a été efficace. Moïse a été un serviteur efficace. Mais quand on lit Exode chapitre 2, revenons à chapitre 2, le texte nous laisse déjà voir quelques changements dans la vie de Moïse. On voit tout d'abord, après qu'il ait fui et qu'il ait passé, qu'il ait fui, à Madian, on lit les versets 16 et 17, Exode chapitre 2, 16 et 17, le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. On voit déjà que Moïse a acquis une attitude de serviteur. Moïse, le prince d'Égypte, fait boire les animaux. Impensable avant. Avant d'avoir été humilié, on avait lu dans le psaume 119, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Après la grande humiliation qu'il a subie, Moïse était prêt à faire n'importe quoi, les choses les plus humbles. Et dans une moindre mesure, Moïse a été déjà un libérateur, puisqu' ses sept filles étaient chassées et il a permis que leurs animaux puissent boire. Auparavant, Moïse avait des projets ambitieux pour la nation d'Israël. Et Dieu lui a dit, en quelque sorte, tu veux être un libérateur? Eh bien, commence à être libérateur ici, à Madian. Sept filles ont besoin de ton aide. Voilà, et Moïse va faire boire des animaux. Moïse ne s'est pas dérobé, malgré son précédent échec. Il a commencé à devenir un homme consacré. Peut-être que vous aussi, vous avez nourri de grands projets, de belles choses, de grands rêves pour le Seigneur, et puis ça s'est effondré. Vous dites, ah non, c'est fini, Dieu m'a mis de côté, c'est terminé. Eh bien, peut-être que vous ne pouvez pas faire autant que vous voudriez. Eh bien, l'exemple de Moïse nous montre simplement commencer à faire les petites choses que vous pouvez. On veut voir grand, on veut être au centre. Voilà. Dieu se sert de nos échecs pour développer en nous un service, un esprit de serviteur. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes choses. Le deuxième changement qu'on peut déjà apercevoir chez Moïse, on le voit aussi dans ce Exode, chapitre 2, versets 18 à 22. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, le père, il dit, Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Guershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Moïse veut rester dans l'ombre, voilà, il va habiter un pays étranger. Et puis on voit qu'il est. On doit le chercher. Voilà, il va pas venir et faire le héros, dire c'est moi qui. Non, 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 on est obligé d'aller le chercher. Moïse, lui, le premier ministre d'Égypte, se résout à habiter un pays qui est inconnu, chez un inconnu, à vivre dans une terre lointaine, à épouser une bergère, il passe de haut en bas. Hein. Moïse voulait rester dans l'ombre, mais il ne voulait pas être au devant de la scène. Dans le corps de Christ, il y a des membres qui sont bien visibles et il y en a d'autres qui sont cachés. Mais tous coopèrent à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Tous, ceux qui sont cachés comme ceux qui sont visibles, sont utiles et indispensables à l'œuvre de Dieu. Moïse était prêt à accepter son nouveau statut. Il était prêt à rester dans l'ombre. Est-ce que vous êtes prêt, vous aussi, si vous voulez servir le Seigneur, à rester dans l'ombre, ne pas être au devant de la scène? Eh bien, Dieu se sert de l'échec pour vaincre notre désir d'être au premier plan. Lorsque Dieu aura triomphé dans notre désir de gloire, notre désir d'être au premier plan, il va vous mettre en vue d'une façon que vous n'aurez pas imaginée, sans que ce soit pour vous une obsession. N'allons pas nous inquiéter de savoir si nous sommes devant ou derrière, si nous sommes sur la scène ou dans les coulisses, si nous sommes chef ou subalterne. Nous allons considérer que nous faisons seulement partie de l'armée du Dieu, que nous servons le Seigneur, un point c'est tout, nous sommes disponibles. Eh bien, vous voyez ce que l'échec nous apprend à être humble, à accepter là où Dieu veut nous mettre, qu'on soit dans la lumière, qu'on soit dans les coulisses. Le Seigneur m'a mis là, je suis content, je me réjouis, je le sers, c'est ce qui est important. La troisième leçon que Moïse a pu tirer de son échec, c'est qu'il a appris à se reposer sur Dieu plutôt que sur ses qualités. Il a appris à compter sur le Seigneur. C'est Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Et longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et en eut compassion. Moïse avait certainement entendu parler des souffrances de son peuple en Égypte. Il avait eu certainement des nouvelles. Il avait certainement des nouvelles du peuple d'Israël en Égypte par la bouche des voyageurs qui passaient à Madian. Mais Moïse, regardez, il ne s'est pas précipité. Ce n'est pas parce qu'il a entendu ces nouvelles-là qu'il s'est précipité pour faire quelque chose. Il savait que Dieu contrôlait la situation et que Dieu agirait à sa manière et on s'entend. Il fallait simplement se confier en lui. Et Moïse, au chapitre 3, il est en train de faire paître les brebis et Dieu l'appelle à ce moment-là. Ce n'est pas lui qui a décidé, maintenant, voilà, je vais y aller, je vais régler la chose. Il n'a pas pris la chose en main. Il a appris à compter sur Dieu, à se reposer sur Dieu, à attendre de lui. Ce n'est pas de la passivité. Mais voilà, il était confiant. Eh bien, pour conclure, notre vie est des fois bien remplie de projets ambitieux. Voilà, nous voulons faire de grandes choses, des choses époustouflantes. On est doué pour ça, on veut servir avec ça. Voilà. Des fois, on s'impose des projets même irréalistes. Et des fois, on place la barre tellement haut qu'on ne peut pas la franchir. Et ça vient de nous, parfois des autres qui nous poussent. Mais ça ne vient pas de Dieu. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous pensons que notre vie ne vaut rien avec toutes ses failles ou avec tous ses échecs. Mais Dieu nous dit, quand nous passons par l'échec et que nous sommes comme Moïse, là, seul au fond du puits, Dieu nous dit, relève-toi et reprends la marche. Notre problème, ce n'est pas d'avoir échoué. Notre problème, c'est de ne pas être peut-être tombé assez bas pour pouvoir apprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Apprendre à compter sur lui, apprendre à chercher sa face, apprendre à attendre son temps, apprendre de lui, oui. Et en fait, au lieu de dire « Seigneur, je veux te servir là », plutôt lui dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» comme Moïse a dit. Et c'est au sein des victoires, mais aussi des échecs, que Dieu est avec nous tous les jours. C'est au sein des victoires, mais aussi des échecs, qu'il nous dirige, nous enseigne, nous humilie, nous prépare pour son service. Faisons-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Et je prends Jean chapitre 15, prenez avec moi. Jean chapitre 15, verset 16, pour terminer. Nous pouvons compter sur lui, nous pouvons nous appuyer sur lui, nous pouvons nous attendre à lui. Jean chapitre 15, verset 16. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà, Dieu, il nous a choisis, il nous a établis pour que nous portions du fruit. Voilà. Et il nous a choisis pour que nous allions dans une charge particulière, dans une tâche particulière, que notre Dieu donc soit remercié. Eh bien, prenons pour terminer ce cantique, il me conduit, douce pensée. C'est le numéro 396, je les ai de la foi. Que le Seigneur vous encourage dans vos échecs, à croire que bien, il peut se servir de vous et qu'il va se servir de vous. Au travers de l'échec, il vous apprend à vous confier en lui davantage. Numéro 3, on va se tenir debout si vous le voulez bien pour entonner ce cantique.